Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Précisons bien sûr que les Montréalais pourront rendre un dernier hommage à Brian Mulroney aujourd'hui, alors que il y aura donc la Chapelle Ardente à Montréal, la Basilique Saint-Patrick, c'est à compter de midi et jusqu'à 18h. Et demain également, ce sera possible de rendre cet hommage de 10h à 18h, alors que les funérailles auront lieu samedi dans le Vieux-Montréal. Et Marc le disait, ça a un impact aussi sur les déplacements en voiture. Ce sera compliqué aujourd'hui, vendredi, centre-ville, et puis évidemment, samedi, dans le Vieux-Montréal. Dans les nouvelles de ce matin, vous allez voir, on va aller dans un peu toutes les directions. Je vais vous parler de l'éclipse. Parce que, je ne sais pas, il y a comme une réaction qui me paraît, moi, démesurée. Des profs qui me disent que dans leur école, l'école officiellement est ouverte. C'est pas une journée pédagogique. Mais là, faut que des profs, ils ont le choix là, d'aller suivre une formation qui dure 3 heures pour préparer les enfants à l'éclipse. 3 heures, il me semble que c'est long un peu, mais bon. Les profs qui font pas la formation, parce que c'est pas obligatoire, ben là, on leur dit, ça dépend des écoles, là, mais dans certaines écoles, on prévoit présenter un film dans le gymnase l'après-midi pendant la durée de toute l'éclipse. Dans d'autres écoles, on leur dit « Restez en classe, fermez les stores, personne regarde vers l'extérieur. » Là, il me semble qu'il y a moyen de faire ça autrement. Ça m'apparaît un peu, disons, extrémiste comme mesure. Puis là, je ne vous parle pas des centres qui ont décidé de garder cette journée pédagogique. Deuxièmement, réseau de la santé. Plusieurs choses ce matin et j'essaie de regarder ça toujours avec l'angle du patient. Le Journal de Montréal nous raconte ce matin l'histoire d'une femme de 73 ans qui est morte d'un anévrisme dans les toilettes de l'urgence de l'hôpital de Joliette. Ça s'est passé l'été dernier et elle attendait depuis 17 heures pour voir un médecin. Et pression élevée, elle avait des symptômes, un historique médical. Et le coroner qui a enquêté, qui n'est pas là pour trouver des coupables, il est là pour établir les circonstances. Et il s'interroge. Est-ce que le triage a été bien fait? Est-ce qu'on avait toute l'information? Pourquoi ça a pris aussi de temps, en fait, une période aussi longue avant que quelqu'un s'en occupe? Puis on l'a trouvé, donc inanimé dans la salle de bain, puis on a tenté de la ramener à la vie. Et puis finalement, elle est décédée, puis il y a eu d'autres cas. Est-ce que l'urgence débordait? La réponse, c'est oui. Comme ça déborde tout le temps. Et qu'il y a une pression, puis je le sais, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui passent des nuits à l'hôpital, puis que ça avance pas, puis tu dis, coudonc, y a-tu assez de médecins pour traiter les patients, puis pourquoi on attend comme ça? Tu sais, 17 heures, est-ce que le triage a été bien fait? Je veux juste soulever ça ce matin parce que ça arrive souvent qu'il y a des gens qui attendent, et il y a des gens qui quittent parce qu'ils sont tannés d'attendre, qui ont peut-être pas des symptômes très affligeant, mais qui, une fois chez eux, ça se complique. Puis il y en a qui, malheureusement, décèdent. Je vous donne un autre exemple du système, le fameux guichet d'accès. Le principe de base, on vous trouve un médecin de famille, les médecins nous brandissent des tableaux en disant « Regardez, on a pris tant de patients. » C'est pas parce que tu es sur la liste d'un médecin que tu as accès au médecin et que tu peux avoir un rendez-vous. C'est un pharmacien, je vais pas le nommer, mais il y en a plusieurs dans la même situation. Il me raconte que ses patients arrivent en pharmacie parce qu'ils ne sont pas capables de faire renouveler leurs médicaments. Il peut le faire pendant une période de temps. Puis des fois, il ne respecte pas tout à fait la règle pour permettre à son patient d'obtenir les médicaments. Quand la patiente ou le patient téléphone au guichet d'accès, on lui dit « que on va vous donner un rendez-vous quand il va vous rester pour 14 jours de médicaments. Et là, tu rappelles, on a dit à ses patients, à plusieurs d'entre eux, là, ben, finalement, on n'est pas capable de vous donner un rendez-vous. Il y a même quelqu'un qui a dit, avez-vous pensé aller au privé pour aller faire renouveler vos ordonnances? Ça, c'est un cas. L'autre cas qui est plus troublant, c'est quelqu'un qui prend des benzos. Normalement, c'est une prescription pour un an. Lui, il dit, j'ai une patiente, là, et comme pharmacien, en mon âme et conscience, je pense qu'on devrait la réévaluer. C'est une patiente qui devrait voir son médecin. Ben là, il n'y a pas de rendez-vous possible. Et elle prend ça depuis 30 ans. Et si je suis la loi, ben, je devrais arrêter la médication. Mais je peux pas faire ça parce qu'il va y avoir une période de sevrage. Donc, les chiffres, les tableaux de bord, c'est beau. Mais ça a ses limites aussi. Puis on le voit dans des cas très précis. Et ce n'est pas le seul pharmacien qui me raconte ça. Puis le Devoir ce matin nous parle des erreurs dans le tableau, qui parle de quelques patients en attente pour tout le Grand Montréal en psychiatrie, alors que c'est pas ça la réalité. Bon, à Québec, on dit qu'il peut y avoir des ajustements, c'est peut-être ça qui est un problème. Mais ce que je veux dire, là, on est beaucoup dans les tableaux, puis dans les chiffres, puis dire est-ce que ça marche? Parfait, ça prend des repères, ça prend des outils. Mais sur le terrain, la réalité est différente des données officielles qu'on retrouve. Et puis un mot sur l'enquête de la coroner Kamel sur la mort de Maureen Breaux. On a vu le conjoint de cette policière, son père, qui est allé témoigner. Et le sentiment depuis le début, c'est que les policiers n'ont pas toute l'information requise, nécessaire, quand ils interviennent. Ils en savent des bouts. Et jusqu'à quel point le secret médical, je dirais, est peut-être surutilisé, alors que quand vous intervenez dans une situation de crise, ça vous prend le maximum. On a créé un registre des armes à feu pour dire, ouais, est-ce que la personne a des armes ou pas? Tu vas être prudent, pareil, avant d'intervenir, mais au moins, tu as cette information-là. Là, on a affaire à qui? Depuis quand il est sorti? Pourquoi? Quelles sont les conditions? Quel est le profil de l'individu? Il me semble que ça aiderait à planifier des interventions, d'autant plus que les problèmes de santé mentale, de psychose, de monde qui capote, qui prennent des barres de fer, qui attaquent des femmes sur la rue, comme vous le voyez, disons que ça se multiplie. André Fèvre, le roi des pédophiles, qui était à la tête d'un club social qui regroupait des hommes qui souhaitaient avoir des échanges sexuels avec des mineurs. Il était le gourou de l'organisation. Il a été condamné à la prison. Ben, depuis qu'il est sorti, il récidive constamment. Et un des derniers cas, c'est sa volonté d'établir des contacts avec ceux qui faisaient partie de son environnement, donc d'autres pédophiles, et d'échanger avec eux. Officiellement, il dit, vous savez, c'est pour prendre de leurs nouvelles, c'est pour trouver des cercles de soutien. Bon, André Fèvre sort une fois, il s'en va dans une salle d'urgence d'un hôpital et tente de séduire un jeune homme qui est là. Il le suit jusqu'à la salle de bain. Premier cas. Deuxième cas, André Fèvre est en maison de transition. Qu'est-ce qu'il fait? Il se promène avec un médaillon de loup. C'est le symbole, comme dans le Petit Chaperon Rouge. Et il se promène pas loin d'une garderie puis d'une crèmerie dans un parc. C'est un pédophile. Et on pourrait ajouter ce genre de bris de conditions. Je ne vais pas m'éterniser sur le cas, mais comment se fait-il qu'il se retrouve en liberté? Comment se fait-il que ce gars-là n'est pas en dedans? C'est quelqu'un qui croit, qui répète sans arrêt que c'est normal de coucher avec des mineurs quand ils sont, entre guillemets, consentants. Donc, pour lui, être pédophile, ce n'est pas un problème. Il est né, répète-t-il, à la mauvaise époque. Et nous autres, on ouvre la porte et on dit, on te fait confiance, on te met des petites conditions, puis même si t'es brise, c'est pas grave, on va t'en mettre d'autres. C'est, disons, ça commence à faire, surtout avec des individus comme ça qui sont des multi-récidivistes. Parlons de Yves Michaud, on a appris le décès de ce personnage haut en couleur, 94 ans. Évidemment, on connaît Yves Michaud pour son combat pour l'indépendance, une grande amitié, profonde amitié avec René Lévesque, défense de la langue française, amateur de vin, importateur de vin, délégué du Québec à Paris. Comme vous le voyez, la feuille de route est exceptionnelle. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'exprimer. Je l'ai fait plusieurs fois en entrevue, c'était un charme. C'est un raconteur, les anecdotes sur René Lévesque, sur la délégation. Il se citait lui-même, il trouvait ça très drôle d'ailleurs. Il m'avait dit ça une fois en entrevue, fait une déclaration, il me regarde, c'est vous, qui a dit ça? J'ai dit non, il dit c'est moi. Alors il se citait, c'est vraiment quelqu'un qui a pris la défense, par exemple, des petits épargnants contre les grandes institutions. Une feuille de route incroyable. La tâche au dossier, c'est le blâme reçu par l'Assemblée nationale pour des propos qu'on avait qualifié d'antisémite. Ce que Yves Michaud avait dit à l'époque, il avait un échange avec le sénateur Léo Colbert dans un salon de coiffure ou de barbier, et les deux étaient amis, là, et les deux se connaissaient et se parlaient de plein de sujets. Et c'est ce qu'il avait dit à l'antenne. J'étais là, donc je le sais ce qu'il a dit. Il avait dit... J'ai parlé avec le sénateur Colbert et je lui ai dit que les Juifs n'avaient pas le monopole de la souffrance. Il n'a pas nié l'Holocauste. Il n'a pas dit « c'est pas arrivé ». Il a dit « il y a d'autres peuples dans le monde qui ont souffert ». Peut-être pas de la même façon, avec un drame inégalé dans l'histoire, mais de la souffrance, ça existe. Et ça a été interprété comme étant des propos antisémites. Et malgré les années, malgré le fait que d'autres élus auraient pu retirer ses excuses, ça n'a pas été fait. Et pour l'avoir interviewé il y a plusieurs années, c'était probablement ce qui lui faisait le plus mal, c'est-à-dire d'avoir été traité d'antisémite et de voir l'Assemblée nationale, qui n'a même pas permis à Yves Michaud de s'exprimer puis défendre son point de vue, de le blâmer. Alors, nos pensées vont pour la famille. Et là, ça arrive au moment où il y a une caricature de Chapleau dans la presse qui est assez controversée. La presse a dû s'excuser et c'est une caricature du premier ministre israélien qui est déguisé en espèce de vampire, qui fait route vers Rafah pour une bataille. Et ce personnage-là est un personnage de film dans les années 20 en Allemagne. Et ça a été associé aux nazis. Donc, on a retiré, parce qu'il y a des gens qui ont dit, encore là, c'est une caricature antisémite. Je comprends tout ça. Puis en même temps, je me rappelle Charlie, où on reconnaissait le droit, on se proclamait, je suis Charlie, le droit de s'exprimer, puis le droit... Et d'attaquer le premier ministre d'Israël sur ses politiques concernant Gaza, c'est pas être antisémite, c'est pas de renier l'Holocauste. C'est de dire que ce gouvernement, ce premier ministre, se livre à des opérations qui n'ont pas d'allure. Et ça a pris une proportion sur le plan humanitaire. Quand vous voyez des médecins, Dr Liu, et plusieurs autres, des dizaines de médecins qui disent, au Québec seulement, là, je parle même pas de ce qui se passe ailleurs, qu'on ne peut pas utiliser la famine comme étant une arme de guerre. Et là, les Nations unies, sous pression américaine, tentent de trouver encore une fois un accord de cessez-le-feu. Mais la réalité terrain ne change pas, c'est-à-dire qu'on a encore des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, une aide alimentaire qui reste très limitée. Ça, c'est un faible pourcentage des besoins, si vous voulez, des Gazaouis qu'on entasse dans les différentes régions de la bande de Gaza. Maintenant, je vous parle de cet article dans le New York Times et on va détailler ça. C'est au chapitre des arnaques. Les arnaques sont nombreuses. On a parlé cette semaine avec Marie-Claude Barrette et la crypto-monnaie. Là, il y a une nouvelle affaire depuis un certain temps. C'est en fait un cartel mexicain de la drogue qui a créé un centre d'appel. Et là, il vise des gens qui ont des propriétés à temps partagé, le fameux timesharing. Ce sont des condos dans des immeubles, puis t'achètes ça, puis t'en payes une partie, par exemple, ou tu vas louer à d'autres personnes qui, bon... Et là, ils arrivent, ces cartels, à obtenir des informations sur les propriétaires de ces condos, font des appels et disent, écoutez, on est intéressé à acheter. Et ce sont souvent des gens plus âgés qui veulent vendre parce qu'ils ont besoin de leur argent. Et à qui on dit, ben, vous allez nous faire parvenir un montant d'argent, parfois 100 000, 200 000, et c'est même allé dans certains cas à 1 million. Les gens ont transféré au Mexique, à quelqu'un qui téléphone, des sommes astronomiques. On pourra dire évidemment que ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait qu'ils tombent dans le piège? Mais c'est arrivé. Et ça montre que les cartels de la drogue diversifient leurs activités. Et c'est un cartel extrêmement violent. On a trouvé 12 employés du centre d'appel en question découpés en morceaux dans des sacs. Et il y a une complicité. Et cette violence au Mexique, on la voit de plus en plus. Puis il y a une Canadienne qui a été assassinée il y a, je crois, 10 jours. Alors, tout ça, c'est pour vous dire de vous méfier. Il y a des Canadiens qui sont touchés. Peut-être pas au Québec. Il y a une barrière linguistique, là. Mais sans aucun doute ailleurs au Canada, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans plusieurs pays. Des gens qui investissent, qui achètent et qui voient le Mexique comme étant une destination extraordinaire pour, par exemple, investir. Donc, c'est dans le New York Times que vous retrouvez évidemment tous les détails. On va faire une pause.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ce matin, deux invités, et ça nous replace dans toute la question de l'immigration, les différents statuts, les façons d'essayer d'accélérer le processus bureaucratique. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes incapable de cocher une case parce que votre situation est différente. Deux invités donc que je vous présente à l'instant. Maria Nazed-Kina, qui est étudiante, origine ukrainienne. Bonjour.
Bonjour.
Et Alexandra, qui est sa cousine, qui elle est résidente permanente et qui habite Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Maria, tu m'as envoyé une courriel pour m'expliquer ta situation. Ouais. On va prendre ça du point de départ, puis vous pourrez l'aider parce que tu es en processus de francisation.
Oui.
Puis tu apprends tranquillement, puis c'est bien correct. Donc, tu vivais avec tes parents en Ukraine quand la guerre a éclaté.
Exactement.
Vous étiez dans quelle ville, dans quelle région?
C'est une ville, Kharkiv. C'est là-bas, très, très, très en sud de l'Ukraine. C'est 40 kilomètres proche des frontières avec la Russie. Donc, quand la guerre a commencé, j'ai vu tout ça par mes yeux, les bombardements, et moi, j'étais la première qui s'est réveillée. Donc, c'est moi qui ai annoncé cette nouvelle à mes parents, que la guerre a commencé, mais tout le monde était dans un état choc, on ne sait pas quoi faire. Et les premières heures, je vois par la fenêtre comme les gens juste se déplacent, et ils ne pouvaient rien faire, parce que la vie était déjà bloquée.
Et à quel moment tu as décidé de venir t'installer au Canada? Tu avais donc de la famille ici, là?
Oui, mais c'était assez très rapidement, comme pendant le premier mois, avec mon père. Il avait dit que c'est un bon choix pour toi, pour développer, pour tes études. Et aussi, Alexandra, ma cousine, elle m'avait dit, c'était la personne qui m'avait écrit comme, « Mais tu peux venir, vas-y, c'est mieux pour ton sécurité. »
En fait, la situation était tellement grave que quand j'appelais, j'entendais les bombardements. Fait que le premier mois, c'était juste de la faire sortir de Kharkiv. Puis une fois que la route s'est libérée pour qu'ils sortent un petit peu plus en sécurité, mais là, c'est là qu'on a appliqué tout de suite pour le visa
d'urgence
temporaire, exactement. Ouais. Le visa d'urgence temporaire, puis c'est là que les démarches ont commencé. Étant donné qu'elle est mineure, on a tout notarié les documents, que moi, je vais être responsable. On a même trouvé un notaire en Ukraine. C'était difficile, mais on l'a trouvé. Puis, on a attendu la révision du visa pendant presque 8 mois, parce qu'on a appliqué au mois d'avril 2022. Elle a obtenu sa visa au mois de novembre 2022 pour venir ici. Puis le 6 décembre 2022, elle est arrivée ici et elle a obtenu le permis de travail temporaire qui permet d'étudier également.
OK. Qu'est-ce que tu fais depuis que tu es arrivée? Quelles sont tes activités? Tu étudies? Tu travailles? Tu fais quoi?
En Ukraine?
Non, ici.
Ah, ici au Canada, mais j'étudie, je travaille. Cet été, j'ai commencé à travailler chez un magasin. pour pratiquer et améliorer mon français un peu, pour parler les gens, pour intégrer en plus mieux. Et aussi, j'ai fait mes études à l'école de francisation, Centre L'Avenir, pour apprendre le français, parce que nous sommes à Québec. Et aussi, pour me partager la culture, je veux m'intégrer parce que c'est très intéressant. Mais aussi, je me prépare pour le secondaire et continue mes études en plus loin, au cégep, j'espère. Ça m'intéresse.
Parlez-moi du problème là de statut. Comme j'ai dit tantôt, on arrive à une échéance importante, oui. Puis elle n'est pas éligible parce qu'elle n'est pas, elle correspond pas à aux différentes catégories qui existent.
Exactement. En fait, le permis qui a été délivré au mois de décembre 2022 à l'aéroport lui permet de demeurer au Canada pendant 3 années consécutives, travailler et étudier. Par contre, en 2025, son permis s'expire. Donc, son droit de rester au Canada expire également. Puis, en 2022, il y a eu une annonce du gouvernement comme quoi ils allaient créer un programme de réunification familiale, même pour les membres de famille éloignés. Et puis, on avait beaucoup d'espoir. Puis, finalement, le programme est sorti au mois d'octobre 2023. Puis, c'est seulement, je pense, qu'ils ont rajouté comme les grands-parents qui pourraient être parrainés, les frères et sœurs. Mais moi, je suis pas la sœur.
Vous êtes ta
cousine. Je suis pas la demi-sœur qui aurait droit de parrainer. Moi, je suis sa cousine de premier degré. Puis même si on est tissé serré, même si on subvient totalement à ses besoins, puis elle a beaucoup d'aspirations, elle veut aller étudier en santé, puis Dieu sait qu'on en a besoin. Mais on est bloqué à ce processus-là. Fait que son seul, pour le moment, porte d'entrée, c'est d'essayer d'obtenir un permis d'études pour faire un DEP, parce qu'elle n'a pas eu la chance encore de terminer. Il reste un an de secondaire à terminer en français, c'est un gros défi. Mais elle serait peut-être qualifiée un DEP. On est en train de reviser son dossier pour voir si elle pourrait rentrer. Comme ça, elle pourrait rester puis avoir une profession. Parce qu'elle n'a pas de profession, elle n'a pas eu la chance encore de finir le secondaire. Donc, tout ça fait en sorte qu'elle ne passe pas par les programmes économiques. Elle ne peut pas se qualifier.
Ce que je comprends aussi, c'est qu'elle pourrait avoir le statut d'étudiante internationale, mais ça veut dire payer des frais de scolarité très élevés.
Exactement. Au Québec, c'est un petit peu plus facile parce que le DEP avec le permis d'études pour les Ukrainiens, c'est, pour le moment, c'est gratuit. Mais si elle veut aller étudier au cégep, c'est 21 000 par année. Puis, il faut qu'elle démontre aussi 15 000 par année pour couvrir ses besoins. Au Québec, ils ont fait une petite notification comme quoi peut-être la famille, il y a des répondants qui peuvent aussi peuvent aussi appliquer pour prouver qu'il y a quelqu'un qui répond pour elle. Donc, peut-être cette partie-là de 15 000, mais sinon, c'est 21 000 par année juste pour étudier au collège. Donc, c'est pas tant réaliste pour les gens qui fuient la guerre actuellement parce que la plupart des gens, contrairement aux croyances, ils viennent pas d'Ukraine. On a fait un sondage. Ils viennent pas d'Europe. On a fait un sondage. Puis, ils viennent vraiment d'Ukraine. Ils ont fui la guerre. Puis, ils n'ont pas beaucoup d'économies. Puis, ça coûte cher. Ça coûte cher pour nous, les Québécois. Ça coûte cher aussi pour les nouveaux arrivants. Fait qu'il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils apprennent la langue. Puis elle, c'est nous la ressource. On fournit tout ce dont elle a besoin. Les besoins de base sont couverts. Si elle a besoin de se déplacer, une auto, c'est couvert. Mais elle demande juste d'avoir la chance d'avoir des outils pour s'intégrer puis continuer ses études. Puis elle veut rester au Québec. Elle veut pratiquer au Québec. Elle veut travailler au Québec.
Pourquoi tu veux rester au Québec?
Je trouve ça une bonne possibilité de mon développement, mais je sais pas, je trouve cette culture extraordinaire. Quand j'avais 13 ans, avant la guerre, avant tout ça, j'ai déjà pensé à essayer d'émigrer ici, mais c'est plus difficile. Mais je sais pas, les cultures, les gens qui sont ouverts, j'adore les gens ici, quand tout le monde est très accueillant, les natures. J'aime l'hiver avec de la neige et maintenant avec les climats et tout ça, réchauffement. En Ukraine, c'est moins mieux qu'avant.
Tes parents sont toujours là-bas?
Oui. Ma mère est en Ukraine actuellement, chez nous. Mais mon père, il est mort.
Oui.
Depuis une semaine. Donc, c'est pour ça que je suis allée en Ukraine semaine passée. Mais je pense qu'il peut se déplacer.
Ça aussi, c'est un point, je veux dire, on comprend que c'était un visa temporaire, puis le but premier, c'était au début de la sortir de là pour qu'elle puisse manger en paix, pour qu'elle puisse pas avoir froid, parce qu'il n'y a pas de chauffage vraiment, vu les bombardements. Par hier, ils se sont fait bombarder encore, sa mère est là, puis on n'a pas eu de contact pendant un certain temps. Pour qu'elle puisse un peu étudier, puis avoir une vie normale, puis juste dormir sans sirène. Mais là, actuellement, la guerre continue. Donc, on demande au gouvernement, mais c'est quoi le plan pour les gens qui ne se qualifient pas parce qu'elle n'est pas la seule adolescente ou elle n'est pas la seule personne qui ne se qualifie pas au programme. Ils les ont accueillis. Les gens travaillent déjà. Ils s'intègrent. Leurs enfants vont à l'école. Mais c'est quoi le plan?
Ce que vous demandez très clairement, c'est de stabiliser le statut de ces personnes qu'on a accueillies à bras ouverts là, parce qu'il y avait une situation de guerre, une situation de crise.
Exactement.
Et vous avez commencé à étudier, à travailler, à apprendre le français.
Ouais.
Puis vous dites, moi, j'aimerais ça rester. Est-ce qu'on peut au moins normaliser la chose?
Exactement, parce que la guerre tue, comme là, on a été très touchés par la famille. C'était une grosse surprise, là, la mort de mon oncle. Donc, on sait que la guerre, elle continue, puis on sait qu'il y a des conséquences désastreuses. Puis les Ukrainiens, puis nous autres, on est très reconnaissants que le Canada ait permis, que le Québec ait permis d'accueillir, puis qu'elle apprenne le français, c'est extraordinaire. Mais on aimerait ça, une stabilité, une sécurité pour ces gens-là qui vivent déjà le stress. Puis elle n'a que 18 ans, puis à 18 ans, tu peux accueillir. Il y a une limite à laquelle tu peux prendre sur tes épaules à un moment donné.
Tenez-nous au courant. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je pense que c'est important parce que il y a votre situation, mais ça représente la situation de bien des gens. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Maria Nazetkina et sa cousine Alexandra, les deux d'origine ukrainienne. Alexandra est ici depuis quelques années maintenant et Maria est ici, réfugiée de guerre. Et elle veut rester ici. Elle est en train d'apprendre le français. Puis comme vous voyez, les études vont très bien. Tu parles un bon français.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Les Montréalais pourront rendre hommage à Brian Mulroney à compter de midi aujourd'hui. Ça se passe à la Basilique Saint-Patrick. Évidemment, il y a un impact sur la circulation. Ils pourront le faire également demain. Et des funérailles d'État auront lieu samedi. Avec nous ce matin, pour parler évidemment de M. Mulroney et parler, je dirais, d'un bon nombre d'enjeux économiques, le président et le chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Péladeau. M. Péladeau, bonjour.
Bonjour, Sarkin.
Ça a été votre mentor, M. Mulroney. C'est pas strictement un président de conseil d'administration, c'était plus que ça.
Oui, vous avez raison, effectivement. Donc, il a accompagné Québecor et puis il a accompagné mon père pendant de très nombreuses années. Bon, son histoire, donc, tu sais, il étudiait à l'Université Laval, il fait son droit, il venait à Montréal, il travaillait pour le cabinet Ogilvy Renault à l'époque. Et l'avocat de mon père s'appelait Wilbrod Gauthier. Et, bon... C'est dans la vie d'une entreprise, il y a toutes sortes de choses qui se produisent, dont notamment donc, la signature de conventions collectives. Et puis, M. Mulroney, donc, lui, est avocat en labor, comme on dit, donc en droit du travail. Et puis, c'est lui qui a négocié donc la première convention collective du Journal de Montréal, de la salle de rédaction. Et puis, tout ça a fait en sorte que il a toujours été familier avec l'entreprise, avec mon père, évidemment. Et puis, au moment de son décès, c'est pas nécessairement... Donc, des chaussures faciles à occuper. Et puis, ben, M. Mulroney était là. M. Mulroney était là pour continuer à nous motiver, à nous inspirer, à faire en sorte qu'on poursuive ce que mon père avait effectivement bâti pendant ces années-là. C'est un être extrêmement courageux. Sa vie politique en témoigne. On peut dire la même chose également aussi à propos de Québécois, parce que ça n'a pas toujours été facile. Et c'est là, je pense, où on reconnaît la grandeur d'un personnage et effectivement une de ses qualités qui qu'il chérissait, c'était la loyauté. Et à cet égard-là, M. Mulroney a jamais manqué de loyauté à l'égard de l'entreprise, à l'égard de la famille de mon père et évidemment, par voie de conséquence également aussi envers moi.
On a dit de lui qu'une de ses principales forces, principales qualités, c'était la diplomatie, l'art de négocier, l'art de parler aux gens, d'amener les gens à des consensus, d'être un rassembleur. Est-ce qu'il était capable de vous dire vos quatre vérités de façon claire et directe en disant « Pierre-Carl, ça ce que tu fais, ça n'a pas de bon sens ».
Bien sûr, bien sûr. Et puis vous avez raison donc de le souligner. C'est un grand diplomate. C'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle donc il s'est dirigé en droit du travail, parce que lorsque on négocie une convention collective, et c'est là, je pense, une de ses grandes qualités, il faut que tout le monde sorte de là, tu sais, en ayant gagné quelque chose. C'est pas parce qu'on va tout prendre. Et donc, il y a le sens de l'équité, il y a le sens du partage, et il sait que tout le monde doit sortir de là avec une bonne transaction, avec un bon deal, si on veut, là, pour employer une expression simple, et à cet égard-là, donc, il prenait les moyens nécessaires pour convaincre les deux parties autour d'une table.
Avez-vous toujours écouté ses conseils?
Ben oui, bien sûr.
Oui, sûr de ça?
Oui, oui, oui. Ben, bon, ça dépend. Donc, il y a eu toutes sortes de conseils.
Ouais.
Mais je dois avouer quand même que là où sa capacité de pouvoir intervenir était encore plus efficace, si je peux dire, c'était autour donc d'enjeux financiers de l'entreprise. Donc, je me souviens, quand on achète Vidéotron, il y avait une filiale qui s'appelait VTL Télécom qui était dans une situation assez difficile et dont un des actionnaires importants, parce que la famille Chagnon avait vendu une partie importante à un groupe de financiers américains, new-yorkais, donc Carlyle Group, qui est encore aujourd'hui un très, très, très important groupe. Donc le fondateur et puis le dirigeant qui s'appelait David Rubinstein est venu à Montréal et c'est avec M. Mulroney qu'on est en mesure de trouver ce qui apparaissait être un compromis pour assurer la pérennité de l'entreprise, différemment évidemment de l'environnement dans lequel l'entreprise avait démarré avec la famille Chagnon, et pour le bénéfice de tous. Oui, on en a laissé sur la table. Oui, ils en ont laissé sur la table, mais à la fin de la journée, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été dans l'intérêt des deux parties de convenir d'une entente telle qu'ils l'avaient proposée.
Ça sera pas facile à remplacer comme président.
C'est irremplaçable. T'sais, on dit toujours que personne n'est irremplaçable, ouais. Mais M. Mulroney, lui, est irremplaçable.
Je veux vous entendre sur Yves Michaud également, parce qu'on a appris le décès de Yves Michaud, ouais. Et une carrière exceptionnelle de diplomate, d'homme politique, défenseur de la langue française. Et il y a cette tâche qui l'a toujours marqué, c'est-à-dire, sans obtenir les excuses de l'Assemblée nationale, il est décédé et c'est probablement ce qui lui a fait le plus mal durant toute sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Yves Michaud?
Moi, je l'ai connu relativement bien. J'ai eu l'occasion donc de le rencontrer à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion également aussi de dîner en sa compagnie, notamment également aussi avec M. Parizeau. Il l'invitait à la maison, chez lui. Il habitait dans le quartier Côte-des-Neiges, sur Côte-Sainte-Marie, le Queen Mary. Je pense que ses éloges ont été nombreux également aussi ce matin. Je trouve que donc la chronique de Yves Boisvert, puis j'adore la façon dont il décrit avec sa voix onctueuse, ou c'était vraiment lui et son amour de la langue. Alors on peut pas faire autrement que là aussi donc reconnaître et l'épisode extrêmement malheureux auquel vous faites référence aurait dû trouver là aussi une voie de solution. J'étais député à l'Assemblée nationale. À plusieurs reprises, il a été question également aussi de faire des motions pour faire en sorte qu'on puisse annuler, si je peux dire, puisque le terme annuler est très à la mode.
Surtout qu'il n'a jamais pu se faire entendre par l'Assemblée nationale.
Exactement. Et puis, c'est un journaliste, mais bon, évidemment, en même temps aussi, je pense qu'il était, il connaissait le droit et il aimait beaucoup les locutions latines.
Oui.
De son amour de la langue. Alors, tu sais, il y avait eu, malheureusement, donc, un empêchement, une incapacité de pouvoir dire, tu sais, la fameuse formule audi alteram partem, de pouvoir avoir le droit, donc, de s'expliquer, de faire la preuve du contraire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et c'est certainement à cet égard-là, effectivement, je pense qu'on est obligé d'en convenir. Donc, une tâche sur l'Assemblée nationale en tant que telle aussi.
Parlons d'affaires un peu. Les ententes de principe ont été conclues avec vos syndicats à TVA. Ça a été ratifié au-delà de 95% des membres qui ont voté en faveur, là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'opération de TVA?
Je pense qu'il y a deux choses importantes. Donc, bon, il y en a probablement plus que deux, là, mais celles que je retiens, il y en a deux. Donc, les régions. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue avec les représentants au plus haut niveau, donc des organisations syndicales. Et à cet égard-là, également aussi, nous et moi aussi personnellement, avons toujours considéré que la couverture régionale pour l'information, pour le Québec, est importante. Et à cet égard-là, au moment de la négociation, on souhaitait diminuer donc nos effectifs en la matière. C'est ce que nous avons fait, mais nous avons en même temps aussi augmenté le nombre de journalistes, le nombre de collaborateurs et de collaboratrices sur le terrain pour faire en sorte que l'information régionale demeure d'une importance, justement, nationale. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième, bon, le 1600 Maisonneuve, et c'est la mission donc de l'annonce que nous avons fait un petit peu plus tôt, nous devons quitter le secteur de la production et uniquement, alors à ce moment-là, se concentrer sur notre mission, dans le fond, historique et fondamentale de diffusion. Et à cet égard-là, donc, ça veut dire que le 1600 Maisonneuve, qui est donc le siège social, ou là où Télémétropole, puis je dis ça ancien parce que c'était Télémétropole,
oh oui,
le Canal 10, s'est établi. C'est un édifice de 50 ans, c'est un édifice qui requiert énormément donc d'attention, c'est beaucoup trop grand. Et en cette matière, je pense qu'on sera pas les seuls. On sera même pas les premiers à avoir fait ça, puisque Radio-Canada également aussi l'a fait il y a déjà de ça quelques années. Donc, ça va nous permettre de nous concentrer sur notre mission fondamentale de l'information et du divertissement. Il va y avoir Salut Bonjour qui va être produit.
Mais l'immeuble, il va se passer quoi? Il va être démoli?
Ben, on souhaiterait le transformer ou le convertir en logements sociaux, peut-être en résidence étudiante. Il y a l'UQAM qui est pas tellement loin. Il va y avoir des pavillons de l'Université de Montréal. Il y a une ligne de métro. La ville doit certainement avoir également aussi des réflexions à l'égard donc d'un endroit ou d'un quartier qui a besoin d'un peu plus d'amour que ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Il y a des développements qui sont prévus, notamment ceux de Radio-Canada. Il y a Molson également aussi qui va venir. Donc, dans l'avenir, on peut penser que ces quadrilatères là, vont pouvoir faire l'objet d'un développement social et économique.
OK. Avec ces pertes d'emplois là, ces 500 et plus, est-ce que TVA est sauvé?
On peut pas présumer et anticiper nécessairement complètement qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir. Quel va être l'effet des Netflix? Quel va être l'effet donc de la continuation de la force des Google, de tous ces engins de recherche de Meta, d'Instagram et Facebook? Est-ce qu'ils vont continuer à, excusez-moi l'expression, siphonner donc le marché publicitaire qui est pour la radio comme la vôtre, pour la télévision comme la nôtre, et la source principale, pour ne pas dire unique également aussi, de capacité de financer nos activités. C'est certain qu'avec tout ce que nous avons perdu, on ose espérer qu'on a atteint le fond du baril. Nous avons des avantages, clairement. Nous sommes donc des médias locaux. On est en mesure de pouvoir cibler davantage, pouvoir être de sensibiliser ou d'être sensible à l'environnement qui nous occupe, qui nous entoure. On est capable également aussi de réagir rapidement, mais indéniablement, il y a une nouvelle, excusez-moi l'expression, d'épistémologie des médias et de la capacité de retenir l'attention et de faire en sorte justement que le marché publicitaire s'y dirige au détriment des médias conventionnels.
Vous avez été le premier à donner le grand coup, là, et on a vu les autres suivre. Je pense à Bell, même Cogeco par la suite, sur la situation globale des médias. Vous dites, TVA, ce sera toujours un diffuseur. On peut pas donner de garantie ferme à 100%. Mais s'il y a un autre coup, s'il y a une autre conjoncture difficile, c'est quoi? C'est la fermeture de TVA?
Moi, je pense que c'est anticipé de ces situations-là. C'est très hypothétique.
Mais est-ce que ça passe par toujours un soutien gouvernemental?
Ben, le soutien gouvernemental, vous savez, tout le monde y a droit, tous les diffuseurs y ont droit. Ouais. Même Radio-Canada, par le biais donc des crédits d'impôt, du Fonds des médias du Canada, et puis d'autres aides de nature publique. Ce qu'on demande et ce que nous n'avons pas obtenu, c'est la même chose également aussi pour Cogeco, c'est que les journalistes de la presse électronique, si on veut, donc la radio et la télévision, puissent également aussi être les bénéficiaires de l'aide qui est procurée à la presse écrite, dont notamment la presse, dont notamment également aussi le Journal de Montréal, les autres quotidiens, malheureusement, il ne reste plus beaucoup au Québec. Alors, ça, en partant du principe que la télévision est un véhicule extrêmement important justement pour informer les citoyens et les citoyennes, c'est un petit peu curieux que le gouvernement, que ce soit le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, ne soit pas en mesure de bien comprendre donc l'étendue et l'envergure de l'importance des médias électroniques et puis refuse jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que ça va être comme ça toujours? Est-ce que dans 12 mois, dans 24 mois, il va y avoir une modification? Nous l'espérons, encore une fois, pour assurer, en tout cas, ou solidifier la pérennité à l'heure actuelle, qui est un petit peu vulnérable, là, des médias d'information locaux.
OK. Rapidement, parce que le temps file, là, faire le tour de quelques autres dossiers. Vous êtes propriétaire d'un paquet d'affaires, puis vous êtes président d'un paquet d'affaires. Votre club de football va bien?
Avec la Coupe Grey, c'est difficile de demander.
Mais est-ce que ça paraît dans les revenus? Est-ce que ça paraît dans les guichets?
Oui. C'est indéniablement donc une situation favorable. Ouais.
OK. Je regarde le succès du hockey féminin. Ça vous tente pas d'acheter un club de hockey féminin?
Nous y pensons très sérieusement. Effectivement, j'ai demandé à mes collaborateurs de regarder ça de plus près. Martin Tremblay qui s'occupe donc de...
Une équipe féminine à Québec.
C'est également aussi une possibilité, oui.
Ça vous tente, là?
Ben, on regarde ça avec intérêt.
Avec intérêt.
Ouais.
Un club de hockey de la Ligue nationale, ça revient de façon cyclique, les rumeurs.
À chaque fois que j'ai l'occasion de vous voir...
Je le sais, mais vous arrivez toujours dans un contexte où on en parle.
Oui.
C'est-tu sérieux? Y a-tu, ou si on est dans le dîner de cons, là, puis on glisse le nom de Québec de temps en temps, comme pour... ça nous prend un nom, là, mais...
Ben clairement, donc, puis je vous répète, il n'y a pas de nouveauté en cette matière. Il y a cet amphithéâtre à Québec.
Mais êtes-vous toujours intéressé à être propriétaire d'un club?
Bien sûr.
Mais il n'y a rien qui vous indique que ça va arriver.
Je lis les informations comme vous. J'ai pas donc de relation particulière avec la très haute direction de la Ligue. Là, il va y avoir le renouvellement des droits de la Ligue nationale qui va se produire pour les droits nationaux, donc les droits de la Ligue nationale. Il va y avoir les droits également locaux avec le Canadien. Ça s'en vient dans 2 ans. Donc, est venu le moment de commencer à discuter de la suite des choses. Vous savez en même temps aussi qu'il y a une modification majeure de la diffusion donc du sport professionnel.
Avec les applications.
Exactement. Déjà ici à Montréal, donc le CF Montréal est allé sur Apple et puis il y a des matchs que nous avions à l'époque sur TVA Sport qui sont rendus chez RDS.
Ce que je comprends,
avoir, là, pour les autres ligues, des orientations de cette nature-là, c'est pas impossible.
Peut-être que je vous comprends mal, là, mais vous donnez l'impression de quelqu'un qui dit « j'ai payé très cher pour ce que c'était la dernière fois, puis c'est pas vrai qu'on m'a payé le même prix parce que là, le marché a changé, puis ça s'est pas avéré l'affaire la plus payante ».
Je me souviens très bien de la dernière entrevue que nous avons eue ensemble à ce sujet-là. On a payé très cher. Puis j'ai dit, je me souviens également aussi la réserve et la nuance. C'est facile de dire à posteriori.
Oui, mais quand le renouvellement de contrat s'en vient, on se dit whoop là.
On va voir la nouvelle configuration. Je pense que, en tout cas, pour la Ligue et puis pour les propriétaires, la renégociation des droits de diffusion, donc des matchs de la Ligue nationale au niveau national, là, qu'on appelle les droits de la Ligue, a été extrêmement bénéfique pour les propriétaires. Parce que là, tu sais, TSN, RDS ont dû également aussi, pour les droits du CH, là, augmenter de façon significative. Est-ce que tout ça va se reproduire? On verra bien. Il y a d'autres alternatives qui sont celles qui n'existaient pas précédemment. En même temps, je pense que tout le monde reconnaît que les télévisions généralistes ainsi que les chaînes spécialisées sont en mesure de procurer un auditoire, ce que les applications ne sont pas nécessairement capables de faire, puis on le constate notamment avec la MLS. Donc, ça va être aux dirigeants, puis ça va être également aussi à nous de jauger tout ça et de faire en sorte qu'on puisse peut-être avoir un nouveau modèle aussi. Il va peut-être avoir un match le mardi.
Est-ce que vous imaginez des espèces de partenariats Québécois Netflix, Québécois Prime. Québécois belle son nom, là, mais je le sais. Mais Québécois avec des plateformes.
Comme distributeur, vous savez. Donc,
puis producteur de produits culturels, de séries, de films.
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Tout comme le fait effectivement aussi en même temps. Donc, on souhaiterait pouvoir, comme distributeur, peut-être offrir un forfait donc d'application. On travaille avec Apple. Ils sont ici. Là, je vois à travers votre fenêtre. Là,
virtuel.
Les Studios Melz.
Exact.
Les Studios Melz. On a un film d'Apple Plus. On a un film de Skydance qui est actuellement aussi qui va être diffusé sur Apple Plus. Donc, on a de très très nombreux rapports avec ces entreprises là. Et puis, je pense qu'elles vont ces rapports-là vont se solidifier encore davantage dans l'avenir.
Quand vous regardez le sondage qui met le Parti québécois loin devant la CAQ, est-ce que ça vous donne le goût de refaire de la politique?
je suis... ça va être la langue de bois, là.
C'est pas obligé.
Non, je dirige Québécois, puis là, mais avec le temps qui passe...
La politique, vous avez aimé ça, quand même.
Oui, j'ai aimé ça.
Et là,
oui.
Vous dites que le PQ est en avance, ils ont besoin de candidats, puis l'élection n'est pas si loin.
Ben, je me souviens aussi, mais là, tu sais, des fois, il y en a qui m'envoient ça. T'sais. Donc, à l'époque, moi aussi, je faisais 34 % contre Couillard.
Bon.
Mais c'est une autre époque.
C'est fini, la politique.
Oui.
Merci d'être venu ce matin.
Je vous en prie, merci.
Pierre-Carl Péladeau est le président et chef de la direction de Québécois.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant du prix des aliments. On a énormément jaser de l'explosion de la facture, mais notre ami Sylvain Charlebois met en lumière ce matin des aliments dont le prix est moins élevé qu'avant la pandémie. On ne pensait pas que ça pouvait exister. Il est avec nous ce matin. Sylvain, bonjour.
J'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin,
C'est excellent, c'est excellent. Mais je regardais la liste de certains produits, certains aliments là, qui sont vendus à un prix inférieur qu'au moment où la pandémie nous a frappés. D'abord, comment on explique ça qu'il y a des produits qui coûtent moins cher maintenant?
Ben, moi, j'ai toujours dit que l'inflation est un problème, mais le plus gros problème qu'on a, c'est la volatilité des prix. Parce que souvent, les gens vont arriver à l'épicerie, ils vont voir un prix extrêmement élevé, sans savoir que ces prix-là vont fluctuer. Et là, quitte, et puis là, ben ils reviennent plus jamais. Donc, ils ont comme en tête, là, mentalement, que ce produit-là n'est plus abordable. Or, ce qu'on oublie, c'est que les prix ont augmenté et baissé. Et sur 4 ans, on s'est rendu compte que, justement, il y a certains produits qui sont moins chers aujourd'hui qu'en février-mars 2020.
Bon, vous donnez des exemples, là. Je regardais les produits du porc, par exemple,
Ouais.
Le porc, le poulet aussi un peu, les poitrines de poulet?
Ça, j'ai l'impression que ça va surprendre beaucoup de monde parce que je sais que l'année passée, il y avait une photo qui a été partagée par des millions de personnes. Là, c'était des poitrines de poulet à Toronto à 39 $ pour 5 poitrines. Et depuis ce temps-là, quand on mentionne que les poitrines de poulet sont moins chères qu'en 2020, les gens le croient tout simplement pas. C'est vraiment quand même exceptionnel ce qui s'est passé depuis 4 ans parce qu'on a tellement dit à tout le monde que tout est cher que lorsqu'on dit que certains produits qui sont des aubaines, qui offrent des aubaines, mais les gens ont de la difficulté à le croire. On est rendu là pas mal. Là.
Avez-vous d'autres bonnes nouvelles sur d'autres produits?
Le thon en conserve aussi est une exception. La fameuse banane, on parle beaucoup de la banane qui a une immunité contre l'inflation. C'est incroyable. La banane, c'est une belle histoire. Ça fait quoi, 20 ans, 25 ans que c'est à peu près le même prix. C'est sûr que le prix va fluctuer une fois de temps en temps, mais en gros, là, la banane a toujours demeuré à peu près au même prix. Donc, il y a quand même des aubaines. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté, puis c'est vrai que les prix ont augmenté. Je vais vous poser une question, Paul.
Oui.
Depuis 2020, mars 2020, combien en pourcentage que vous pensez que les prix ont augmenté, là, toutes catégories confondues, à peu près?
15 %
23 %
23?
Ouais.
Mais il y a des produits, l'huile d'olive, par exemple, mais même mes amis italiens hésitent à consommer parce qu'ils trouvent que c'est trop cher.
Non, exactement, mais on a sondé les Canadiens il y a 2 semaines. On leur a demandé la même question. Combien en pourcentage vous pensez que les produits ont augmenté depuis 2020? Et la réponse, la moyenne est 78%.
Eh boy.
Donc, il y a un écart de 55%. Là.
C'est énorme.
Et c'est un gros problème.
Sylvain Charlebois, merci.
Bonne journée.
Bonne journée. Sylvain Charlebois, qui est le responsable scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. On va parler maintenant des grands chantiers, des grands projets de transport collectif, parce qu'on regarde ça. Tiens, je prends le grand projet du Stade olympique, tu dis, est-ce que ça va coûter vraiment ça? Quand on annonce le REM, est-ce que ça va coûter vraiment ça? Le prolongement d'une ligne de métro, est-ce que ça va coûter vraiment? Et on découvre rapidement qu'il y a explosion des coûts. Jacques Roy est expert en transport, professeur à HEC. Il publie une étude, donc, comparative sur nos pratiques dans l'octroi de contrôle, la gestion des chantiers. Monsieur Roy, bonjour.
Bonjour, M. Arquin.
D'abord, quand vous regardez la façon dont on donne les contrats, qu'on prépare les projets au Québec puis on les exécute, est-ce qu'on a une bonne note, une note moyenne ou une mauvaise note?
Disons qu'on est plutôt moyen. Et ça commence souvent plutôt mal parce que même si on connaît les besoins avec des analyses, origine, destination, etc., on a tendance à ne pas toujours considérer les prévisions qui ont été faites sur l'achalandage et à se précipiter dans l'offre de différents tracés puis de différents modes de transport. Et c'est ça qui suscite l'enthousiasme et les discussions, les échanges, alors que bien souvent, le besoin primaire, si on veut, de déplacement n'a pas nécessairement été bien défini. Et ça, c'est peut-être la pire erreur qu'on peut faire, c'est de se précipiter à offrir des services qui n'ont pas été bien définis dès le départ.
Je lisais récemment un article qui disait que la pire erreur, c'est qu'on précipitait l'élaboration du projet, l'appel d'offres, qu'on prenait pas le temps d'assez réfléchir sur pourquoi ce tracé, qu'est-ce qu'il a d'avantageux, c'est quoi ses inconvénients, est-ce qu'on se retrouve, par exemple, avec plus ou moins d'expropriation. C'est comme si on faisait le plan rapidement, puis que là, on le corrigeait au moment de l'exécution.
Ouais, ben exactement. Puis c'est définitivement une bonne pratique. Quand on regarde les projets à travers le monde, on n'est pas les seuls. Hein? La plupart des projets, on connaît des dépassements de coûts et des retards, mais bon, on peut certainement faire mieux. Il y a des bonnes pratiques qui sont connues. Et ça, c'en est une. C'est de prendre le temps de planifier, pas de tergiverser pendant 10 ans sur la nature du projet, mais de prendre ce temps-là pour bien planifié, bien coordonné avec souvent d'autres services publics qui doivent intervenir, d'autres paliers politiques. Je dis pas que c'est simple, mais justement, plus on consacre de temps à la planification, plus ensuite on peut exécuter rapidement. Et c'est pendant l'exécution que les coûts risquent d'exploser parce que c'est là que la main-d'œuvre est sur le chantier, les équipements, etc. Donc, mieux on planifie à l'origine, plus on est capable d'exécuter au moindre coût possible.
Qui sont les meilleurs au monde, d'après vous, là?
En fait, les études démontrent assez clairement qu'en Europe, on fait beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut faire aussi bien qu'eux? Pas nécessairement, parce que, par exemple, on cite souvent l'Italie, l'Espagne, etc., même la France, qui sont dont un peu plus coûteux que les autres. Mais il y a parfois des normes moins sévères au niveau de la santé et sécurité au travail, par exemple. Mais ce qu'on observe, par exemple, dans la ville de Milan, qui a construit beaucoup de métros, c'est qu'ils ont réussi à conserver une expertise à l'interne dans les organismes publics pour gérer ces projets-là. Et ça, c'est très précieux. Si on a des gens compétents à la tête des projets, ben on a plus de chances de réussir. Et on exécute aussi beaucoup plus rapidement. On a peut-être aussi davantage d'entrepreneurs qui sont compétents pour faire des choses. Mais c'est un ensemble de facteurs dont on peut chercher au moins à s'inspirer.
Je vous amène sur le dossier de Québec. Là, on a eu la saga du troisième lien. Là, après ça, on a dit il n'y a pas de troisième lien, mais il y aura quelque chose. On demande à la Caisse de dépôt et de placement du Québec Infra d'arriver avec des propositions. Comment vous voyez ça? C'est quoi votre regard là-dessus?
Ben, ça aussi, quand on regarde les meilleures pratiques dans le monde, dans des agglomérations urbaines comme Québec, Montréal, il devrait y avoir un organisme qui est chargé de la planification d'un réseau de transport collectif. à Montréal, ça devrait être la RTM, mais on sait que, bon, ils ont été un peu court-circuités par la Caisse de dépôt et l'OREM. À Québec, on n'a pas un tel organisme. La Ville de Québec a son projet de tramway. Le gouvernement a décidé de créer un troisième lien, mais il n'y a pas vraiment eu de planification à savoir c'est quoi les besoins, c'est quoi les échanges, les déplacements entre les deux rives, comment ça devrait être structuré, tout ça. Et ce que je comprends du mandat qu'on a confié à la Caisse de dépôt, c'est de proposer un tel plan. Bon, est-ce que c'est ça qu'ils vont faire ou ils vont proposer une solution qu'ils connaissent mieux? On verra, mais bon, on a définitivement besoin de savoir où on s'en va. Ça nous prend un plan d'ensemble, des gens qui vont construire ce réseau-là, le planifier. Puis après ça, si dans le réseau, il y a un bout de tramway ou un prolongement de métro, bon, ça devient un projet à qui qu'on devrait confier à des gens compétents.
Merci beaucoup, M. Roy. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Jacques Roy, expert en transport et professeur à HEC Montréal et auteur de cette étude. La conclusion, c'est qu'on précipite les choses. Puis qu'à un moment donné, un tel veut investir. Le gouvernement dit, on va faire un REM. Oui, mais je suis en train de développer une ligne de métro. Oui, mais nous autres, on fait un REM pareil. Puis après ça, ben, on se rend compte que les coûts augmentent de façon spectaculaire. C'est le cas de le dire, les billets pour le match de hockey féminin Montréal-Toronto se sont envolés hier en 30 minutes. Ça montre l'intérêt et l'effet, évidemment, un peu pervers, c'est la spéculation puis la hausse des prix sur le marché parallèle.
Ouais, parce que beaucoup de ces billets ont été achetés par des revendeurs. Alors déjà hier, on pouvait trouver des billets à 500 $ pour le match qui aura lieu le 20 avril au Centre Bell entre Montréal et Toronto, où on va établir une nouvelle marque. En termes d'assistance, on va battre le record actuel de 19 285 spectateurs qui avait été établi à Toronto le 16 février, toujours entre Montréal et Toronto. Et pour en parler, on va aller retrouver la directrice générale de l'équipe de Montréal, Danielle Sauvageau. Bonjour, Danielle.
Bonjour, bon matin.
Danielle, je pense que les gens se doutaient bien que vous réussiriez à vendre les 21 000 billets, mais as-tu été étonné que ça se vende aussi rapidement, par contre?
Pas vraiment, parce qu'on avait peut-être de l'information en amont. Là. D'abord, les détenteurs de billets avaient, au niveau de la procédure, avaient déjà là, l'opportunité d'en acheter. Ceux qui avaient aussi signé dès le début de l'année sur la liste d'attente. Et ensuite, tous ceux et celles qui s'étaient procurés des billets pour le match du 21 avril avaient priorité, évidemment, parce qu'ils avaient déjà acheté leur siège. Alors, ces gens-là, si on multiplie par un ami ou deux, on se rendait à 16, 17, 18 000 ou à peu près. Et tout d'un coup, ben là, ça s'est visiblement, là, lorsque les gens étaient en attente, on le voyait déjà, là, l'information, c'est que les gens étaient déjà en attente plusieurs minutes avant la mise en vente officielle. Et on se disait, ben ça va prendre combien de temps? Et tous les billets qui ont été mis en vente ont été effectivement vendus.
Est-ce que ça vous donne l'idée d'ajouter d'autres matchs au Centre Bell en séries éliminatoires, par exemple?
C'est sûr que moi, j'en parle déjà depuis un petit bout. Je me dis, dès l'année prochaine, est-ce qu'on pourrait effectivement penser à avoir plusieurs matchs, de jouer peut-être là chaque équipe au Centre Bell? Alors, on dit qu'il faut lancer des choses dans l'univers. Alors, publiquement, on les lance depuis déjà un petit bout. Et le CH, le groupe CH, est un partenaire extraordinaire dans cette aventure-là. Alors, je vous dis pourquoi pas.
Est-ce que c'est le même engouement partout dans la Ligue?
Au niveau canadien, oui. Ottawa joue devant des très belles foules. L'ensemble des billets ont été vendus à Toronto, un peu comme nous au début de l'année. D'ailleurs, c'est Toronto qui a vendu l'ensemble des billets. Oui, il y a un peu moins de monde, mais ça demeure que la demande était là. Et ensuite, ils ont fait la même chose là au centre Scotiabank avec les billets qui se sont vendus à peu près dans le même temps. Alors oui, au Canada, c'est là. Ensuite, Minnesota joue devant des foules de 8-9 000, joue dans un amphithéâtre déjà de la Ligue nationale. New York, c'est un petit peu plus difficile. Là. On est en train, ils sont en train même de regarder est-ce que le choix des endroits est le bon. Et ensuite, là, Boston joue aussi dans deux amphithéâtres. Alors, tout ça parce que c'est parti quand même sur le tard. Alors, la disponibilité des amphithéâtres, mais dès l'année prochaine, là, avec les informations qu'on ramasse cette année, il va y avoir des meilleures décisions qui vont être prises.
Est-ce qu'avec le succès que connaît la Ligue, il y a des projets d'expansion?
Pas pour l'année prochaine, mais on en parle beaucoup parce que visiblement, la demande est là Et surtout aussi le produit qui est déjà excellent. Le prochain repêchage, 7 rondes, donc 7 joueuses feront leur entrée par équipe. Si on ajoute les Européennes qui, elles, l'année dernière étaient sous contrat, cette année vont pouvoir aussi se rendre éligibles pour le repêchage. Alors, ça fait beaucoup de joueuses qui pourraient jouer dans cette ligue-là et malheureusement, elles n'auront pas de travail dès l'année prochaine. Alors, notre rôle, évidemment, de créer un endroit pour que ces joueuses-là de talent qui peuvent déjà jouer dans cette ligue-là puissent jouer dès 2025.
Pierre-Carl Péladeau était notre invité ce matin. Disons qu'il a manifesté un intérêt pour avoir un club à Québec.
Ça, je vous confirme qu'on le sait et on le sait depuis maintenant plusieurs mois. J'ai reçu des appels dès l'annonce de la Ligue septembre, octobre. Est-ce qu'on pourrait avoir un match hors concours? Non, on n'en a pas cette année. On a fait un tournoi hors concours avec les 6 équipes à l'extérieur, à Utica aux États-Unis. Mais dès le départ, c'était comme, est-ce qu'on peut vous attirer à Québec? Est-ce qu'on peut penser d'avoir une équipe? Alors, je vous confirme que les dirigeants et les décideurs de la Ligue sont très au courant de ce souhait.
Mais ça ferait toute une rivalité. Montréal-Toronto, c'est une chose, là, mais Montréal-Québec, on passera ouais. ailleurs. Là.
Et que la vingt serait occupée parce que y aurait autant de spectateurs. J'ai l'impression qu'on se retrouverait à l'occasion à Montréal comme lorsque le Canadien joue en Floride, c'est-à-dire avec autant de partisans de Québec et vice-versa. Ce serait extraordinaire.
Mais Daniel, est-ce que le modèle d'affaires actuel est là pour durer? C'est-à-dire que les clubs appartiennent à un seul propriétaire, là, pour l'instant.
Et c'est la raison pour laquelle il a fait ce choix-là, en disant, je vais demeurer le propriétaire. Est-ce que dans la phase 2, il fera le même choix? Il nous disait dès octobre, novembre, ben ça prouve qu'il y a de l'intérêt parce qu'on a déjà des gens qui communiquent avec nous pour se procurer une franchise, c'est-à-dire une équipe. Mais le modèle, lui, ce qu'il disait, on le parle tellement vite. Et il avait dit la même chose, Gary Bateman, il avait dit, parle pas tout de suite, c'est trop vite, c'est trop de travail. Il dit non, on part cette année. Alors, le pari, ils l'ont gagné. On l'a gagné, je devrais dire. Et par la suite, ben est-ce qu'il va décider de faire la même chose? Parce qu'il disait, si on part, on va avoir une philosophie. Chaque équipe, la Ligue va être aussi forte que par le développement de ses équipes. On travaille tous dans la même direction. Nous sommes tous employés et tous employés de la Ligue. Alors moi, je pense que de stabiliser maintenant dans la phase 2 et d'augmenter le nombre d'équipes, est-ce qu'il va aller aussi vite que de se séparer de quelques équipes? Je ne sais pas. Mais son plan était bien établi. Puis jusqu'ici, ben je pense qu'il lui donne raison.
Merci beaucoup, Daniel.
Merci, bonne fin de journée.
Merci.
Merci de votre intérêt.
Ah non, mais c'est un succès, là, vrai. Là.
Non, c'est des records à chaque fois. Là. Au début, tu sais, à Ottawa, il y avait peut-être 6 000. Puis après ça, c'est 8 000 au Minnesota, puis 10 000 là, puis 19 000 à Toronto. Puis on est rendu à 21 000. Puis,
Ceux qui font la revente des billets du club de gars vont s'apercevoir que le club de filles, ça coûte plus cher.
Non, puis c'est pour ça qu'un match en série. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de série au Centre Bell.
Ça, c'est notre affaire.
Il pourrait peut-être jouer un match des séries éliminatoires au Centre Bell.
Merci, Monsieur le Canadien, joue ce soir.
Oui, contre les Canucks à Vancouver, on va se coucher tard encore.
Fait que tu vas manquer Fabien demain.
Ben oui, toi. Ça commence à 22h ce soir.
Ben écoute, tu ouvriras la radio dans ton lit puis t'écouteras Fabien et nous raconter ses histoires.
Je chanterai tout seul dans mon lit.
Oui, je le sais. Oui, ton réveil matin, ça va ressembler à ça.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.